Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour un temps de partage de la parole de Dieu. J'aime ce temps-là, j'attends ce temps de méditation, ce temps de partage avec chacun de vous, même si on ne peut pas pour l'instant être les uns à côté des autres, les uns face aux autres, nous ne pouvons pas interagir avec la personne qui est à côté de nous. Néanmoins, on ressent dans ces moments que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas isolés, en tous les cas sur le plan spirituel. Certes, physiquement, chacun se doit de rester et de respecter ces temps d'isolement pour éviter la transmission du virus. Et j'invite vraiment chacun à être attentif à cela, à respecter les règles qui ont été établies. Ce sont des règles qui ont pour but de nous préserver de tout ce que nous sommes en train de voir malheureusement autour de nous. Il y a des personnes qui ont été touchées malgré eux par cette maladie et qui sont en train de souffrir énormément. Donc faisons tout ce qui est nécessaire, soyons sages, soyons attentifs, soyons respectueux, soyons aussi encourageants les uns vers les autres à continuer dans ce temps de confinement, malgré que ce ne soit pas facile, et ce n'est facile pour personne, mais je crois qu'il est important plus que jamais de pouvoir saisir ces moments-là pour véritablement nous recentrer. Et ce matin, aujourd'hui, je voudrais vous amener à encore un temps de partage de la parole de Dieu. C'est notre richesse, c'est notre force, c'est quelque chose qui vient renouveler notre cœur. Et je vous invite à faire quelques lectures avec moi. Et cette semaine, j'ai été interpellé par un texte qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 6 et 7. Je répète, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Il est particulier, comme ça arrive à chacun d'entre nous, de relire des textes de la parole de Dieu et d'un coup de les découvrir sous une nouvelle lumière, sous une nouvelle, je dirais, réflexion, une pensée qui nous amène à aller un peu plus loin. Et je voudrais justement ce matin partager ce texte et dans ce thème « comme un vase ». Comme un vase. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 4 dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. J'aimerais relire ce texte avec vous parce qu'il est incroyable. En tous les cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça sera de même pour vous. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons, vous et moi, dans des vases de terre, nous sommes que des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et en faisant la lecture de ce texte de 2 Corinthiens, il y a un deuxième texte qui est venu presque se poser sur le premier et me mettre en relief certains points que nous allons partager ensemble. Mais je vous invite à faire cette deuxième lecture dans le livre des Juges, au chapitre 7, les versets 19 et 20. Juges, chapitre 7, les versets 19 et 20. Alors, dans ce texte des Juges, on se retrouve avec Gédéon, un homme qui avait été appelé par Dieu à œuvrer pour la délivrance du peuple, puisque le peuple faisait face à l'invasion des Madianites. Et à un certain moment, Gédéon, il répond à cet appel de Dieu. Il avancera en demandant à Dieu des signes pour être sûr de ne pas se tromper, un premier, un deuxième, un troisième. Et après, Dieu, il va permettre que le cœur des hommes vont suivre Gédéon, mais à un certain moment, Dieu va lui dire « Écoute, tu as trop de monde avec toi. Tu as trop de monde avec toi, on va commencer à faire le tri, je vais faire le tri. » Et à fur et à mesure, Gédéon va se retrouver avec 300 personnes. Et en réalité, face à lui, une armée qui était bien plus grand nombreuse que celle de Gédéon. Mais Gédéon pouvait compter sur le secours de Dieu. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Même si dans ces moments, on peut se sentir peut-être seul, en tous les cas, c'est le cas physiquement, mais en réalité, Dieu est avec nous. Donc, je voudrais vraiment vous encourager ce matin à vous sentir plus proche de Dieu. Et en réalité, cette proximité avec Dieu, cette relation avec Dieu, c'est celle qui va renouveler notre courage, qui va renouveler nos forces, qui va renouveler notre vision, qui va renouveler aussi et qui va nous apporter le secours de Dieu, mais aussi la délivrance de Dieu, aussi, je dirais, la victoire que Dieu a prévue pour nous dans les différents combats que nous pouvons traverser. Dans le texte de Juges, au chapitre 7, versets 19 et 20, il est encore question de vases de cruche. Donc, on va lire ce texte, je vous invite à le faire avec moi, versets 19 et 20 du chapitre 7 des Juges. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de relever les gardes. Ils sonnèrent du cor et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois colonnes, donc il y avait 3 fois 100, sonnèrent du cor et brisèrent les cruches et saisirent de la main gauche les torches et de la main droite le cor pour en sonner et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Nous avons fait 2 fois la lecture de 2 Corinthiens, donc on va refaire la lecture de Juges chapitre 7 pour bien nous imprégner du texte. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Donc c'était en pleine nuit. Et comme on venait relever la garde, il y avait le changement de la garde, ils sonnèrent du cor et brisèrent les cruches. Ils ont saisi un moment de changement de la garde pour intervenir, pour agir, parce qu'il avait une directive de la part de Dieu. Ils saisirent de la main gauche les torches et de la main droite les cors pour sonner et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Amen. Au-delà de la stratégie qui a été donnée à Gédéon pour remporter cette victoire incroyable, j'aimerais ce matin surtout m'entretenir avec vous sur cette vision du vase, cette utilité du vase, cette fonction du vase. Premièrement, première chose à considérer, c'est que la parole de Dieu nous le dit, on l'a lu en 2 Corinthiens chapitre 4, des vases de terre, des vases de terre. Le vase de terre, c'est l'œuvre du potier. C'est l'ouvrage qui ressort d'un travail qui n'est pas facile. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà essayé de faire un vase. Vous verrez bien que ce n'est pas évident de maîtriser la matière, de lui donner la forme qu'on a peut-être nous établi dans notre tête, dessiné, voire même on a une idée du vase qu'on veut faire, mais quand on passe à la réalisation, c'est bien plus compliqué que cela. Il faut de la formation, il faut avoir appris des gestes, il faut savoir utiliser la matière, il faut savoir gérer la matière, savoir si elle est trop humide, trop sèche. Il y a une maîtrise aussi par rapport au tour, puisque cette matière, elle doit tourner à une certaine vitesse qui permet en effet aux mains de travailler pour venir former ce vase, cette cruche, lui donner la forme. Et dans cette image du potier, je vous rappelle que c'est pas juste la forme extérieure qui l'emporte, même si c'est la forme extérieure que nous voyons et nous aimons regarder un vase bien fait, bien formé, bien dessiné. Mais ce qui est aussi très important, c'est l'intérieur, puisque c'est à l'intérieur que le vase va servir de conteneur, il va pouvoir être utile pour contenir de l'eau ou d'autres liquides, mais en tous les cas, il y a une main qui travaille l'extérieur du vase et il y a une main qui travaille l'intérieur du vase. Quelle image incroyable déjà du travail du potier. En Ésaïe chapitre 64, verset 7, Ésaïe 64, 7, il est écrit ceci: « Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Quel bonheur pour nous de savoir que nous sommes passés par les mains du potier. Reconnaître que nous ne sommes pas l'ouvrage qui a été fait à la chaîne, mais nous sommes uniques. Et je peux vous prouver ce que je viens de vous dire, puisque nous en avons la preuve immédiate. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous tenons dans nos mains des empreintes qui sont uniques. Nous avons des morphologies qui peuvent être ressemblantes les unes des autres, peut-être la couleur des cheveux, la couleur des yeux, mais néanmoins, même l'œil, la forme de l'iris, elle est unique. L'ADN est quelque chose aussi d'assez particulier. Dieu a empreint chacun d'entre nous d'une action unique, personnelle, d'un acte divin qu'il a posé dans la vie de chaque être humain. Dieu est celui qui nous a formés. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Si d'un côté nous sommes émerveillés, et je crois que chacun de nous est émerveillé de savoir que Dieu a posé ses mains dans notre vie, il nous a construit, bâti, tissé, amené à ce développement, il reste le fait que nous sommes de l'argile. Et quand on parle de l'argile, on parle d'une nature qui est quand même fragile. L'argile est quelque chose qui, en effet, ressort de la terre. C'est quelque chose qui se veut un matériel très humble. Et tant que nous gardons ça dans notre cœur, nous gardons cette humilité, mais aussi nous prenons conscience de cette fragilité, ça nous préserve. Ça nous oblige aussi à éviter les coups, à éviter de faire du n'importe quoi, puisque la vie en elle-même, et je crois que nous en sommes conscients, c'est un fil très fragile, très fin. Mais ce vase d'argile, cette nature fragile, cette nature parfois aussi rebelle, puisque je reviens à cette image de vouloir former un vase, cette matière, elle a besoin d'être maîtrisée, elle a besoin d'être travaillée d'une certaine manière, et Dieu sait comment travailler notre cœur. Dieu sait comment maîtriser notre nature. Alors, ne pensons pas que nous sommes, malgré notre, je dirais, authenticité et malgré le fait que nous soyons uniques, nous ne croyons pas que Dieu ne sache pas quoi faire avec chacun d'entre nous, puisque il est le potier. Il connaît la matière que nous sommes. Et il sait de quelle manière nous travailler à l'extérieur, mais davantage à l'intérieur. En Ésaïe, au chapitre 45, j'aimerais vous amener à cette lecture. Ésaïe 45, c'est ce texte entre les versets 8 et 12 qui dit « Moi, l'Éternel, je suis le Créateur ». Alors, je vous invite à faire la lecture du verset 8 et 9. Hein. « Moi, l'Éternel, je suis le Créateur. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre, l'argile. Dit-elle à celui qui le façonne, « Que fais-tu ?» Et ton œuvre ne vaut rien. Dieu nous rappelle quel est son rôle, quelle est sa responsabilité, quelle est son autorité. Mais il nous rappelle aussi que notre fragilité, notre nature, et comme je disais, parfois une nature rebelle, très souvent, et je parle pour moi, après chacun s'examine soi-même, mais elle a besoin de saisir certaines vérités. Et il arrive parfois que nous pouvons rentrer dans une forme de contestation avec Dieu et presque à dire « Pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi tu as fait ça de cette manière? Ton œuvre, voilà, et il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il serait nécessaire, important pour nous de ne pas aller au-delà, ne pas aller au-delà de ce qui est convenable. Nous ne pouvons pas, à quelque part, remettre en question Dieu, puisque sa manière de travailler, elle est bonne. Mais si on regarde sur notre nature rebelle, on comprend que s'il y a quelque chose qui est défectueux, s'il y a un problème, ne dépend pas des mains du potier, puisque lui nous a formés d'une telle manière, et si nous regardons bien la nature, la manière où Dieu a créé la nature, la manière où Dieu a étudié dans les moindres détails, tout est parfait. La partie défaut, c'est quelque chose que nous avons introduit, nous, dans l'humanité. Nous avons introduit quelque chose qui est venu changer ce que Dieu avait prévu. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image, il les a créés dans un but d'avoir une relation avec eux, d'avoir un partage avec eux, de prendre soin d'eux, mais l'homme et la femme ont voulu plus. Dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres, nous voyons de quelle manière la rébellion, la désobéissance sont venues prendre place dans le cœur de l'homme et de la femme et les ont amenés à pécher. Et ils ont introduit dans cette nature, dans cette création qui était parfaite, ils ont introduit quelque chose qui est venu à quelque part être comme un défaut, mais qui n'est pas lié au constructeur, n'est pas lié au potier, mais c'est l'être humain, la nature, notre nature, qui a généré quelque chose à cause du péché que nous avons accepté, à cause du péché qui nous a été proposé, oui, par Satan, mais l'homme a été attiré par quelque chose qui n'était pas bon pour lui. Et nous avons introduit, nous avons laissé rentrer dans notre cœur, dans notre âme, quelque chose qui est devenu pour nous un piège, qui est devenu pour nous une raison de rébellion, d'attitude, de comportement, qui parfois, comme je disais tout à l'heure, et nous avons lu en Ésaïe 45, amène parfois la créature à demander des comptes au Créateur. C'est quand même incroyable. Mais c'est la réalité. Vase de terre que nous sommes. Mais en lisant ce texte, on pourrait se dire, oui, d'accord, ça, on en a peut-être déjà débattu à quelques reprises, mais dans la lecture des deux textes que nous avons faits, que ce soit celui de 2 Corinthiens comme celui du livre des Juges, nous voyons qu'il est question de vases qui sont vides et qui ont besoin d'être remplis. En Ésaïe chapitre 52, le verset 11, Ésaïe 52, 11, il y a un appel au peuple, il y a un appel aux hommes et aux femmes qui est fait de la manière suivante. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Cette invitation est celle de préserver le vase que nous sommes, de toute impureté, de toute souillure. Si, comme nous l'avons établi, comme nous l'avons partagé il y a quelques instants, le péché a introduit dans la nature humaine quelque chose qui est venu modifier le plan de Dieu, néanmoins Dieu veut nous ramener au plan d'origine, et pour cela, il a fait et il a mis tout en œuvre pour notre salut. Il a mis tout en œuvre pour que notre vie revienne au projet initial qui est celui d'une relation entre le Créateur et sa créature. J'ai déjà visité, comme je pense certainement beaucoup d'entre vous, des ateliers de création, des laboratoires où des hommes, des femmes, des artisans travaillent la matière et on voit quelle passion ils ont dans le travail qu'ils font. On est émerveillé. Bon, en tous les cas, je suis émerveillé de voir avec quelle capacité et quelle, je dirais même, vision ils travaillent la matière. Et quel bonheur pour eux, mais même aussi quelle source de un peu d'orgueil, hein, de joie. Mais on le comprend, c'est pas une mauvaise orgueil, c'est la satisfaction, voilà, satisfaction de présenter leur ouvrage aux personnes qui visitent leur atelier. Et moi, je me dis, quel bonheur pour Dieu, pour lui, quelle satisfaction de pouvoir lui aussi dire, voilà ma créature, voilà celui en qui j'ai placé mon affection. On voit ce type de propos dans la parole de Dieu. On voit de quelle manière Dieu regarde à l'être humain. La parole de Dieu nous parle d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu, qui ont aimé Dieu, et pour lequel Dieu n'a pas de problème à manifester ni son amour, et encore de le manifester publiquement. Moïse est considéré l'ami de Dieu. La relation était très forte, non pas seulement parce que Dieu voulait avoir une relation avec Moïse, voulait avoir cette relation d'amitié, mais parce que Moïse aussi a désiré et il est rentré pleinement dans cette relation avec Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, encore une fois, quelqu'un qui avait lui aussi, certes, des défauts, mais dans son cœur désirait cette relation avec Dieu, et malgré ses erreurs, malgré ses fautes, il a su aussi revenir vers Dieu. Il a su prendre cette direction de revenir entre les mains du potier et dire « Seigneur, transforme-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » On a plein d'autres exemples. Mais je vous rappelle aussi les paroles de Dieu le Père au moment où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour obéir à la volonté du Père. Il n'avait pas besoin de se baptiser, il n'avait pas besoin d'être purifié, il était pur. Il n'avait commis aucun péché et il n'a commis aucun péché. C'était ce qu'il fallait pour qu'il puisse en réalité, lui, juste, payer notre dette pour nous injuste. Et au moment où Jésus sortira de l'eau, puisqu'il est question de baptême, et le baptême, le mot baptême veut dire immersion. Ce n'est pas juste quelques gouttelettes qui est venue mouiller le front de Jésus, mais le texte, il nous parle de immersion. Jésus avait 30 ans, donc c'est l'engagement, comme la parole de Dieu nous le dit, l'engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement mûri, réfléchi, personnel, intime, profond, que de se baptiser. Ce n'est pas le résultat du choix des parents, ce n'est pas le choix d'une religion quelconque, c'est la décision de quelqu'un qui a saisi pleinement qui est Dieu et quelle place Dieu doit occuper dans sa vie. Excusez-moi de dire cela, mais les prisons sont pleines de personnes qui ont été très souvent baptisées malgré eux. C'est des choix qui ont été faits par la famille, par les parents, et ils ont pensé bien faire. Néanmoins, tant que cette décision n'est pas personnelle, il n'y aura pas forcément un résultat derrière. Or, Jésus nous enseigne à accepter que nous sommes que des vases, mais en même temps qu'on a besoin de garder notre cœur, notre vie, de nous purifier pour Dieu, de nous donner à Dieu, d'accepter que Dieu, pas seulement il nous a formés, mais malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, le péché s'est introduit dans notre nature, mais accepter d'être lavé, être purifié, être transformé, être rendu encore une fois utilisable entre les mains de Dieu. Si on devait faire recours un verre ou quelque chose qui n'est pas propre, je crois qu'on serait gêné de nous servir pour boire dans quelque chose qu'on ne voit pas propre, pur. On aurait le sentiment de prendre des risques, et on prend des risques, de nous souiller, de quelque part même voir tomber malade parce qu'on a utilisé quelque chose qui n'était pas apte, qui n'a pas été rendu apte à l'utilisation que nous voulons en avoir. De la même manière, Dieu ne se servira pas, excusez-moi, de vase sale. Il ne met pas ce qui est pur dans quelque chose qui est impropre. Mais Dieu, en Christ, a prévu pour nous un moyen de sanctification, de purification pour transformer les vases qu'on était, des vases de colère, des vases dans lesquels la haine est rentrée, des vases dans lesquels le péché est rentré, la méchanceté et tout ce qui fait partie de la nature humaine, pour venir les changer dans des vases de miséricorde, dans des vases qui contiennent une grâce qui est celle de Dieu. Et pour cela, il nous demande pas seulement d'accepter de nous mettre entre ses mains, de revenir entre les mains du potier pour être lavé, pour être purifié, mais nous demande après aussi de faire le nécessaire pour ne tout à nouveau ne pas tomber dans les pièges du passé. Donc, nous garder purifiés. Le texte d'Ésaïe 52, il dit « Sortez du milieu d'eux, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui êtes un vase pour Dieu, purifiez-vous, acceptez et préservez cette œuvre que Dieu accomplit dans votre cœur. » Dans la lecture que nous avons faite dans le livre des Juges tout à l'heure, dans la stratégie que Dieu avait donnée à Gédéon, il a été question de mettre des torches dans les vases pour éviter que, l'ennemi voit tout de suite que Gédéon et son armée étaient en train de se disposer autour. Pour pouvoir s'approcher de manière discrète, il avait fallu prendre ses torches et les mettre dans un vase pour garder cette lumière allumée et pour pouvoir s'approcher donc dans la stratégie qui leur avait été donnée. Et je vous disais tout à l'heure, en faisant la lecture des deux textes, j'ai vu un rapprochement auquel je n'avais pas forcément fait attention auparavant, mais qui m'a beaucoup interpellé, c'est cette image de cette lumière qui doit rentrer dans ce vase et l'œuvre que cette torche va faire dans le vase. La première réaction, la première action qui va être menée par ce feu qui rentre dans un vase, c'est qu'il le purifie. S'il y avait encore quelque chose d'impur dans ce vase, ce feu viendra le brûler, le consommer, et viendra en effet à quelque part stériliser, on peut utiliser un peu ce mot, stériliser l'intérieur de ce vase, le purifier, mais en même temps, l'œuvre de ce feu, ça va être celle de réchauffer le vase. Est-ce que nous sommes prêts à accepter aujourd'hui que la lumière de Dieu viennent briller au plus profond de nous-mêmes, puisque le feu a cette tendance quand même à brûler, à illuminer, à éclairer. Est-ce que la lumière de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir dans notre cœur, nous qui sommes qu'un vase, et accepter que cette lumière vienne purifier notre cœur, vienne réchauffer. Tout d'un coup, elle vienne faire une œuvre de purification. Elles viennent mettre en évidence tout ce qu'il y a encore peut-être de caché dans notre cœur, dans notre vie. 2 Corinthiens que nous avons lu dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, elle a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ », dira 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Il est question de laisser brûler cette lumière, laisser cette lumière éclairer, briller, brûler ce qui ne va pas, purifier, mais en même temps réchauffer nos cœurs. Quand la parole de Dieu, quand la vérité de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un, ce cœur ne peut pas rester insensible. Je n'ai pas la référence en tête, vous m'en excuserez, mais j'ai juste cette pensée de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en marche et à un certain moment, il y a un troisième homme qui s'approche d'eux et qui leur parle. Et tout au long de cette discussion, ils vont arriver dans un lieu, ils vont s'arrêter et là, finalement, ils vont être je dirais, éclairés, puisqu'ils ont reçu déjà par ce troisième homme qui est Jésus, qui est venu tout à nouveau rechercher ces deux disciples qui étaient partis de Jérusalem alors qu'ils avaient un rendez-vous qui leur avait été donné. Et Jésus leur avait dit « Ne bougez pas de Jérusalem, restez là, attendez le Saint-Esprit ». Et ces hommes, ils sont partis, ils étaient sur leur chemin, ils étaient en train de s'entretenir l'un l'autre de ce qu'ils avaient vécu, ils étaient tristes, ils étaient effondrés dans leur cœur, et ce troisième homme vient leur parler, et eux, ils leur disent « Mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé, tu es le seul qui n'arrive pas à considérer les faits qui se sont produits à Jérusalem. » Et Jésus, dit la parole de Dieu, commença par les lettres et les prophètes à leur enseigner tout ce qui devait se produire. Quand Christ rentre dans nos cœurs, il vient et agit par la parole de Dieu. Et il fait un travail de fond. Il nous ramène tout à nouveau à considérer la parole de Dieu dans sa réalité. Et cette vérité de la parole de Dieu brille, réchauffe nos cœurs, commence à purifier nos cœurs jusqu'au moment où finalement nous y voyons plus clair. Et les deux disciples vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas ? Notre cœur ne brûlait-il pas ? Alors qu'il nous parlait, alors qu'on était en chemin, alors que tous ces propos nous étaient partagés. Quand la vérité de Dieu vient toucher le cœur d'un homme, d'une femme, il y a quelque chose qui vient tout à nouveau brûler au fond du cœur. Il y a une flamme qui se rallume, il y a une flamme qui se ranime. Et cette parole de vérité vient brûler, consommer tout ce qui n'est pas une vérité, tout ce qui n'est pas une parole de Dieu, tout ce qui n'est pas fondamental, tout ce qui n'est pas précieux. Et en même temps, il vient nous sortir de la froideur du péché, froideur dans les relations, froideur dans notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Il vient réchauffer nos cœurs, nous faire sentir pas seulement la vérité de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu réchauffe les cœurs. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'expérimenter cette œuvre dans notre cœur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre que Dieu veut accomplir dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous avons dit tout à l'heure, 2 Corinthiens 4:6, la lumière brillera du sein des ténèbres, à briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Forcément, quand cette parole arrive dans nos cœurs, elle agit, elle fait une œuvre, elle permet une métamorphose de notre compréhension, puisqu'elle nous amène à quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre par nous-mêmes. Nous sommes trop limités, nous sommes que des vases de terre. On a besoin de quelque chose qui vient de la part de Dieu, ce feu qui vient de Dieu, cette torche, cette lumière qui vient briller, et c'est la lumière de Dieu qui peut seulement venir transformer notre vie. Mais une dernière chose qui m'a interpellé dans le texte de Gédéon, et c'est là que j'ai fait un rapprochement entre Gédéon et le texte des juges et le texte de 2 Corinthiens, c'est que nous avons lu au verset 20, les trois colonnes, donc les trois groupes de 100 personnes, ont à un certain moment sonné du cor et brisé les cruches, brisé les vases. Alors on pourrait, certes, et on aura l'occasion de le faire, de parler de l'importance de ce son, de la trompette, du son du cor, qui était un rappel aussi à chacun d'entre nous à être attentif, à l'écoute de Dieu, mais je voudrais rester sur la pensée du vase brisé. À un certain moment, il a fallu briser ces cruches, briser ces vases, pour que la lumière soit manifestée. Et si on fait le parallèle avec 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pour que cette puissance, pour que cette lumière, pour que cette je dirais, ce feu soit visible, soit reconnu, soit vu, il faut accepter aussi qu'à un moment, le vase soit brisé. Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui ont dû briser le vase. Et à ce moment-là, ont pu ressortir cette torche et ils ont crié, ils ont acclamé victoire au nom de l'Éternel. La question, c'est pour nous de comprendre que cette œuvre de brisement, elle est nécessaire. Or, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pas pour, à quelque part, dire l'homme n'a aucune valeur. Non. Bien évidemment, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, puisque il a donné son Fils pour nous. Il a accompli un sacrifice énorme en donnant Jésus à la croix pour nous, par amour. La parole de Dieu nous dit que nous sommes aux yeux de Dieu précieux comme la pupille de ses yeux. Donc, ce brisement qui doit arriver dans la vie de tout homme, de toute femme qui veut véritablement marcher avec Dieu, a un but bien précis. Et ça ne doit pas être seulement une question de parole. Jean chapitre 7, verset 18. Jean chapitre 7, verset 18. Dit « Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. » Il est question pour nous de mettre en avant le potier, pas le vase. Il est question pour nous de comprendre et que la véritable valeur est celle que le vase place dans notre vie. Ce qui fait la valeur de ce que nous sommes, c'est qui est à l'origine du bien que nous sommes. S'il y a des vases aujourd'hui qui ont une valeur immense, et la valeur a été donnée à cause de celui qui a créé ce vase. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre que l'être humain a une grande valeur. Et que nous devons respecter cette valeur que Dieu a établie dans la vie de chacun d'entre nous. Et cette valeur, elle n'est pas liée ni à la couleur, ni à la race. Cette valeur est liée au fait que Dieu nous a créés et que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Peu importe la couleur, peu importe la langue, peu importe, je dirais, la forme que nous avons, nous faisons tous, chacun d'entre nous, partie du projet de Dieu. Néanmoins, nous devons aussi accepter de mettre en valeur ce que Dieu est. Et ce n'est pas en nous mettant en valeur nous-mêmes. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de vases se sont pris pour être le potier. Alors, vous m'excusez, mais un vase ne peut pas être le potier. Un vase, ça reste un vase. Le potier, c'est celui qui lui a donné forme, c'est celui qui l'a imaginé, pensé, mis en œuvre pour le réaliser. Donc, il est question de mettre pour nous, non pas valeur en ce que nous sommes, mais considérer que la véritable gloire est celle que Christ a déposée en nous. Nous portons ce trésor, la révélation, la parole de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu dans notre cœur, mais nous sommes que des vases de terre, afin que tout ce qui en ressort de bon soit la gloire de Dieu. Et nous devons faire attention à nos paroles, mais je dirais que nous devons aussi prendre et faire attention à nos actes. 1 Pierre chapitre 4, le verset 11, 1 Pierre chapitre 4, verset 11, dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. J'aimerais relire ce texte parce qu'il y a des textes, parfois on les lit, on passe très vite, et si on reprenait le temps de les relire et de les ressasser, de les laisser travailler notre cœur, encore une fois, ça nous amène à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, qu'il parle selon les paroles, les révélations de Dieu, pas de soi-même, de ce que Dieu nous dit. Utilisons la parole de Dieu, apprenons à non pas à l'utiliser pour des fins personnelles, mais à la répandre comme nous l'avons reçue. Et c'est là l'importance pour nous de partager la parole de Dieu. Mais aussi dans notre service, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Non pas par nos propres forces, non pas par nos propres valeurs personnelles, non pas par nos propres capacités. Certes, Dieu nous les a données pour qu'on les mette à son service, mais ce n'est pas celles-là ou celles-ci qui vont faire de nous des meilleurs serviteurs. La véritable force que nous devons chercher, la véritable valeur que nous devons, nous tous, expérimenter, que nous devons chérir dans notre cœur, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle que Dieu nous accorde afin que, en toute chose, en tout ce que nous disons, mais aussi en tout ce que nous faisons, la gloire revienne toujours et seulement à Christ, à qui appartiennent gloire, honneur et puissance. En Romains chapitre 9, et j'aimerais terminer avec ce verset, Romains chapitre 9, verset 23-24, il est question pour nous d'être prêts, de réaliser, mais aussi être prêts à le vivre, à être des vases. La question pour nous encore ce matin, est-ce que nous sommes prêts à réaliser que nous sommes que des vases? Sommes-nous prêts à nous laisser transformer, purifier, laver? Sommes-nous prêts à nous laisser, encore une fois, examiner et aussi transformer dans notre être intérieur par cette lumière, cette vérité, cette chaleur que le Saint-Esprit amène dans nos cœurs? Sommes-nous prêts aussi à vivre ce brisement où ce n'est pas nous qui devons paraître, ce n'est pas la beauté du vase, mais c'est l'œuvre du potier qui doit ressortir. En Romains chapitre 9, verset 23-24, il est écrit ceci. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Acceptons-nous cet appel, cet appel de la part du potier, cet appel de la part de Dieu à connaître la richesse de sa gloire. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, maintenant et pour tout le reste de notre vie à accepter d'être des vases qui ont reçu, qui portent cette gloire de Dieu, mais dans cette humilité qui doit demeurer la nôtre, en reconnaissant que nous sommes que des vases de terre. Je vous rappelle le texte de 2 Corinthiens 4, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Mais sommes-nous prêts à accepter que cette puissance de Dieu vienne remplir le vase que nous sommes? Vous savez, un vase vide ne sert pas à grand-chose. Peut-être il remplit en fonction de décoration, mais quelle en est l'utilité réelle? Un vase, à la base, était produit pour pouvoir contenir, pour pouvoir être porteur de quelque chose. Si un vase demeure vide, à quelque part, il ne remplit pas sa fonction. Si notre cœur demeure vide, si nous portons pas cette gloire de Dieu, nous accomplissons pas notre fonction. Nous expérimentons pas cette grâce d'être chacun d'entre nous un vase de miséricorde, un vase entre les mains de Dieu. je voudrais terminer par inviter chacun à examiner son cœur et encore aujourd'hui saisir l'occasion de dire, Seigneur, je ne suis qu'un vase. Entre tes mains, Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, fais que ce ne soit pas mon caractère qui ressorte, mais Seigneur, que ce soit le tien, Seigneur, qui vienne transformer ma vie, Seigneur. Seigneur, si, Seigneur, je désire que ce que tu déposes au moins soit, Seigneur, à ta gloire. Seigneur, si j'ai besoin de passer par le brisement, alors Seigneur, brise le vase que je suis, pour que cette vérité, cette lumière, cette grandeur de ta parole soit à ta gloire, pour la victoire, Seigneur, de ton nom. Encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mon ami qui écoute ce message, ce que je vous partage, c'est tout simplement ce que j'ai ressenti très fort dans mon cœur. Et moi-même, je me dis, Seigneur, aide-moi à être un vase qui t'honore tous les jours. Nous avons tous besoin de reconnaître que nous sommes qu'un vase de terre. Et que notre vie, elle est tellement limitée, tellement fragile. Notre nature est tellement fragile. Mais pour autant, Dieu a préparé pour nous quelque chose de merveilleux, de glorieux. Alors, s'il vous plaît, ne passez pas à côté de cela. Ne passons pas à côté d'être un vase entre les mains du divin potier. Et laissez ce potier nous remplir de cette puissance qui est la sienne, de cette grâce qui est la sienne, de cet amour qui est le sien, de cette bonté qui lui appartient. Pour que nous puissions expérimenter la joie, le bonheur de répondre à notre potier, celui qui nous a créés, à notre Créateur, à notre Dieu. Seigneur, je suis un instrument entre tes mains. Qu'à toi et toi seul en soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. Je vous invite encore à méditer la parole de Dieu et je vous redonne rendez-vous donc mardi, vendredi et dimanche prochain. Dieu voulant, continuons à prier les uns pour les autres, continuons à nous encourager les uns les autres, et que la grâce de Dieu vous garde.